franceinter.fr.
Bonjour à tous. Il y a exactement un an que la France a été la cible de la plus grande attaque terroriste de son histoire, la première coordonnée en plusieurs lieux. Dans la soirée, des terroristes se réclamant de l'organisation État islamique déclenchaient leur ceinture explosive aux abords du Stade de France pendant le match de foot France-Allemagne. Un autre commando mitraillait des terrasses de cafés et restaurants du 11e arrondissement. Enfin, trois hommes s'introduisaient au Bataclan pendant le concert des Eagles of Death Metal, assassinant des spectateurs avant de mourir lors de l'assaut de la police. 130 morts au total, 90 dans la seule salle de spectacle. Et comme souvent au milieu de la tragédie, des gestes nous rattachent à l'humanité. Ainsi, ce jeune homme qui, tentant de fuir le carnage, s'est retrouvé accroché à une fenêtre du Bataclan en compagnie d'une jeune femme enceinte qu'il a réussi à sauver. Au péril de sa vie, car ce sauvetage impliquait qu'il retourne dans le bâtiment où il s'est retrouvé otage des barbares. La vidéo de son acte d'héroïsme, tournée par un journaliste habitant à proximité, a fait le tour du monde. Sébastien a été très discret depuis un an sur son aventure. C'est donc son témoignage exceptionnel que Paul Ferrier a recueilli pour Interception. Retour au Bataclan, c'est un reportage de Paul Ferrier qui a retrouvé Sébastien la veille de son voyage à Paris. C'était le jour de son anniversaire.
Interception, le magazine de la rédaction.
Alors, hop là, le cadeau. Bah pour commencer ce voyage, ce retour sur cette année de reconstruction, Sébastien m'a invité à son anniversaire. On est à Arles, chez son grand-père, là où il habite. Et il fête ses 35 ans.
Bonjour. Journaliste avec un cadeau. Bon anniversaire.
Merci mec.
Ça va
là? Ouais.
Ça bah va. Ouais, ça va.
Putain, au moins ça t'annonce la couleur quoi.
Bah quoi?
Qu'est-ce que c'est?
Bah découvre. Ouvre. C'est fait pour. Wow. Je me suis dit que ça pourrait.
Ah, je l'ouvrirai tout.
Oui, oui, pas du tout, pas de problème.
Là, voilà, ça c'est mon cousin Miguel, l'ami Thierry, leur ami qui vient de Belleron, donc.
Marlène. Bonjour. Enchanté, pareil.
Mangez un petit peu les jeunes là.
Alors, j'ai une très bonne nouvelle là, ça vient de tomber, les verres en plastique sont arrivés. Voilà. Bon, tout le monde penche.
C'est ce que j'ai envie de vivre tous les jours, la fête, quoi. C'est ce que j'ai envie de partager avec le plus de gens possible, mes proches, comme ceux que je ne vois pas beaucoup. En fait, j'ai fait une grande invitation. Je voulais voir des gens qui me manquaient dans mon existence. J'ai vraiment envie de m'entourer maintenant, quoi. Autant j'ai eu des moments très solitaires après, autant maintenant j'ai envie de revenir à la vie. Et quel meilleur moyen que la musique, que la fête. Il faut profiter de tous les moments qui me sont donnés en bonus maintenant, quoi. Des vieux potes, des nouveaux, ma chérie, mes parents, tout se mélange et j'espère que c'est une belle harmonie autour de moi parce que vraiment la saveur de la vie, de l'existence, c'est les autres en fait. C'est ce qu'on peut partager avec les gens qu'on aime, quoi. Et là, c'est mon anniversaire, on va dire, de la renaissance, quoi.
Donc où il se passe un truc, t'es là quoi?
Non, en fait je suis là pour un truc un peu précis. C'est que cette semaine avec Sébastien, on va remonter à Paris un an après.
Je me suis dit que c'était une bonne occasion de célébrer voilà, ce qui nous est donné à tous, ce qui a l'air évident. Mais qui finalement est pas tant que ça et qui peut nous quitter trop facilement. Je suis très heureux de vous voir là aujourd'hui, là, de pouvoir vous voir quoi, tout simplement et de vous serrer dans mes bras.
Merci. Donc tu es Marlène.
C'est ça.
Avec Sébastien depuis 3 mois.
Exactement, on se connaît depuis un petit peu plus longtemps, mais on a fait une soirée en hommage à Van Gogh et à tout leur. Enfin, il y avait toute une une histoire autour des tableaux de Van Gogh et il y avait les personnages des tableaux qui sortaient et qui t'expliquaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu en fait avec Van Gogh. Et ça, avait le rôle de Théo. Et moi, je suis arrivée dans cette soirée totalement... C'était pas prévu, je devais pas venir peut-être, et puis j'y étais quand même. Et moi, je suis peintre. Du coup, j'ai proposé, parmi tant d'autres propositions, de faire le portrait de Théo, puisque Vincent n'a jamais peint son frère. Puis bon, il y avait peut-être un coup de cœur qui était là immédiatement, sans qu'on s'en rende compte vraiment, autant lui que moi.
Tu savais qu'au moment où tu l'as rencontré, ce qu'il avait vécu, ce qu'il...
Non, pas du tout.
Il te l'a raconté?
Non. En fait, c'est Lucie qui, quand j'ai fait le tableau, m'a dit... qu'il fallait pas que je mette de rouge, parce que moi, comme tu peux voir, le rouge est un peu « red is the color ».
Pour décrire, il y a des cheveux rouges, voilà, il y a des chaussures rouges, entre deux,
enflammée.
Il y a une veste en cuir.
Exactement, je suis un petit peu rock'n'roll. Et du coup, elle m'a dit « essaye de pas mettre de rouge dans ton tableau », mais pas plus, quoi. Et j'ai su après, en fait. Et j'ai fait un tableau qui s'appelle « La vie étoilée », en hommage à Van Gogh et la nuit étoilée. Et je te ferai voir, si tu veux, il est dans la chambre, si tu veux voir.
Oui, carrément, on peut
aller bien, allez. Allons-y. Voilà, j'ai fait un tableau qui représentait Théo, en fait. C'était pas Seb. Ouais. Et 2 mois après, quand j'ai remis le tableau, c'était Seb que je voulais rencontrer. J'ai su son histoire et j'avais suivi cette histoire. Forcément, j'ai été touchée de la même manière que tous les gens qui ont vécu au travers des médias, au travers de tout ça. Et puis, je savais, en fait, l'histoire de cet Arlésien qui avait sauvé cette femme. Et d'ailleurs, dans mon tableau, il y a un peu... un rappel. Pour moi, c'est la vie étoilée. Pour moi, c'est une étoile. Il a sauvé quelqu'un qui portait la vie.
Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sous les cailloux. Hop, on tiendra sa revanche.
Donc voilà, on est au lendemain de l'anniversaire de Sébastien. On est revenu chez son grand-père, là où il habite. On va pouvoir discuter plus tranquillement qu'hier. Il y a sa famille qui nous attend, son père, sa mère et normalement son grand-père. Bonjour Sébastien.
Salut Paul.
Alors on se retrouve chez vous, enfin chez votre grand-père. Hein. C'est là que vous habitez à Arles, le portail. C'est là que vous habitez à Arles. On voulait rencontrer vos parents, votre famille, avant de partir demain pour Paris, retourner au Bataclan. Ils étaient forcément en première ligne au moment où il a fallu vous soutenir, au moment où il a fallu vous récupérer quand vous êtes redescendu de Paris, et durant toute cette année pour se reconstruire. Donc c'est de ça qu'on va discuter avec eux.
Bah, il se trouve que je vis ici depuis un an et demi. Et que je devais être là en transition, et que finalement, ça a été mon havre de paix depuis que je suis rentré de Paris. Ouais.
Ouais. Chez le grand-père.
Chez le grand-père, ouais. Donc du coup, c'est un peu un retour en enfant, cette maison. Mais voilà, je vois mes parents, je vis avec mon grand-père. C'est rassurant, et en même temps, ça fait un peu bizarre à 35 ans, quand même. Donc là, il y a maman.
Et la maman.
Enchantée. Yolande, la maman de Sébastien.
Jean-Jacques. Le père de Sébastien, jeune retraité.
On va s'installer à table pour discuter, pour revenir sur cette année difficile.
Difficile, et puis en même temps, on a appris à se reconnecter, à parler de choses profondes entre nous, donc ça a été difficile aussi, autant qu'enrichissant, quoi.
Alors, le thé. Le café.
Merci.
Italien.
C'est vrai qu'on n'a pas vraiment discuté directement de ça, sauf quand il s'agissait de leur raconter vraiment ce qui s'était passé, parce que finalement je me suis rendu compte que mes parents étaient pas étaient en première ligne, certes, parce que j'ai appelé ma mère ce soir-là et ma sœur, mais d'un autre côté. Ils ont vite zappé, dans le sens où quand je suis revenu, ils étaient juste contents de me voir vivant, et ils n'avaient pas vraiment la conscience de ce que j'avais traversé là-bas. Est-ce que ça avait remué Même moi, j'en avais pas vraiment conscience de ce que ça avait remué en moi et ce que ça avait fait remonter. Donc, on en parle petit à petit.
Premier mot quand il est revenu de Paris, c'est premier mot, enfin, dans les jours qui ont suivi, c'était c'est pas grave. C'est pas grave. Des choses pour lesquelles on se prenait la tête avant, c'est pas grave. Voilà. Et effectivement, c'est tellement bon d'entendre ça. Hein, c'est pas grave.
C'est un peu la méthode Coué. Mais ça fonctionne parce que avec la parole, on crée des ondes. Et je crois que là-bas aussi, quand j'étais pendu dans le vide, à la fenêtre, il y avait il y a eu quelqu'un qui a prononcé des paroles qui ont été importantes. Et c'était « ça va bien se passer ».
Il y a un an donc, on est le 13 novembre au soir, vous êtes où? Comment est-ce que vous apprenez que Sébastien est au Bataclan?
On devait, le vendredi soir, on a une réunion de prière parce qu'on est croyant. Et on ne se rend pas à cette réunion et on va chez ma maman pour lui rendre visite parce qu'on avait été absent quelques jours. Et on passe la fin de soirée ensemble et elle met les infos. Donc vers France 3, là, vers un petit peu avant 23h. Et ou 22h30, je ne sais plus. Et on voit attentat à Paris et prise d'otage dans une salle de concert, Bataclan.
Vous savez qu'il était au Bataclan?
Non.
Non, vous savez.
Non, je savais qu'il y a un concert à Paris. Mais à Paris, il y a beaucoup de concerts, beaucoup de salles, mais bon, c'est pas possible qu'il soit au Bataclan, c'est pas possible. Mais bon, je veux savoir où il est. Donc immédiatement, des textos, bien sûr, il ne répondait pas. Des appels, messages répondeurs. Et 10 minutes après, notre fille donc m'appelle, me dit « Maman, Sébastien est au Bataclan ». Et voilà, le mot qu'elle m'a dit, « Maman, prie ». Uniquement. Voilà, le temps que je fasse intervenir un petit peu mes connaissances, je reçois un texto de Sébastien.
Combien de temps après?
Une petite demi-heure.
Vous avez une demi-heure d'attente à ne pas savoir.
À ne pas savoir. Donc... le texto de Sébastien, je suis sauvée. Donc là, c'est là, trois mots, je suis sauvée. Là, j'appelle son frère, j'appelle sa sœur. Voilà.
Tu viens me voir au lit.
Et je viens te voir au lit après que tout soit.
Et oui.
On a le papa au fond qui est en retrait.
Ben, écoutez, j'ai essayé d'écouter mon fils. Hein. J'ai été à l'écoute, dans la mesure du possible, bien sûr. Parce qu'il n'était pas trop bavard non plus. Il n'a pas été trop bavard au départ. Je trouvais ce qu'il avait fait là-bas était plus qu'exceptionnel, puisqu'il a été très actif pendant ces moments-là, puisqu'il n'a pas eu peur véritablement. Il a été sous pression, mais dans la bonne pression, quoi. Même par rapport aux autres qui étaient à côté de lui, il a été positif. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, une certaine admiration. Quelque part aussi, je me suis posé la question, si moi j'avais été à sa place, j'aurais peut-être pas fait la même chose. J'aurais pensé à partir très rapidement. Là, je trouvais qu'il a été un peu exceptionnel. C'est pas parce que c'est mon fils, c'est que l'action a été exceptionnelle.
Mais j'ai essayé de partir aussi. Hein.
Oui, mais
c'est la seule chose que j'ai faite. Donc je suis un petit peu comme toi finalement, mais je me suis planté, quoi. Voilà. J'ai pas trouvé la sortie.
Oui, mais, ou alors tu as été guidé quelque part, je sais pas. C'est bien de remettre les choses à leur place. Moi, j'ai un petit peu trop. Mais tu as fait. C'est une action. Donc l'action, elle est là. Elle est ce qu'elle a été. Donc, si vous voulez, moi, j'avais surtout conscience des répercussions que j'aurais pu avoir. Ça allait avoir dans sa vie après. Il a 35 ans, je veux dire, c'est quelque chose qui le remet en question sur beaucoup de ce qu'il pensait et peut-être lui donner un autre élan dans la vie et de ce plaisir de vivre. Sachant qu'il y en a d'autres qui l'ont perdu, et ça c'est choquant, c'est même plus que choquant. C'est inadmissible dans ce cas-là, mais enfin... La vie est là, elle est là. Donc mon fils est présent, il est là et merci.
On va accueillir peut-être le grand-père qui vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour. Le grand-père de ce grand garçon. Eh oui, j'ai 95 ans.
En fait, papy, il voit très bien ce que ça veut dire d'être entre les balles, quoi. Parce qu'il était au front russe. Pour lui, c'est des aventures, c'est des souvenirs. C'est une ode à la vie, mon grand-père, quoi. Il revient vraiment de loin aussi. Et j'aurais aimé qu'il vous raconte l'histoire où effectivement il a failli mourir, quoi. Mais bon, là je crois qu'il va vous raconter toute la guerre, donc là s'il sort ses carnets, ça risque de prendre longtemps.
Voilà le carnet, voilà. Un carnet que j'ai commencé à remplir le jour où je suis parti en Allemagne, ouais. À la dernière page, voilà. J'étais arrivé chez moi.
Enfin à la maison, il y a marqué sur
la dernière
carnet.
Page.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est en fait enfin à la maison quand je suis rentré ici, c'était tout ce dont j'avais besoin. C'était mon quotidien. C'est dans les petites choses qu'on trouve le plaisir. Et ouais, enfin à la maison, quoi. C'est ça.
Donc on va monter faire ta valise, Sébastien.
Ça marche.
Bon, donc là c'est le nom de mon ventre, quoi. C'est là où j'ai passé trois quarts du temps ces six derniers mois. C'est 9 derniers mois et c'est 11 derniers mois. Je parle des six derniers mois parce que les six mois après ont été quand même les plus noirs, enfin les plus difficiles à vivre. Parce que je cherchais un petit peu l'équilibre.
Avant de rentrer.
Ouais.
Je vois des guitares partout.
Ouais. Ouais, ouais, c'est dans la succursale, juste en dehors de la chambre, il y a les guitares, ouais.
Parce que c'est un truc qui est quand même très important dans ce que vous êtes, le fait d'être musicien, chanteur, blues rock. Il y a un morceau que vous avez joué, rejoué, re-rejoué, qui a marqué cette année de après Bataclan.
En fait, quand j'ai su que vous viendriez et qu'il y avait une chanson particulière à jouer, c'est terrible à dire, mais celle qui m'est revenue, c'est celle sur laquelle sont entrés les terroristes, que je n'ai jamais réécoutée, que je peux plus entendre, mais elle m'est revenue dans l'oreille. Shadows on my age. Peut-être la suite dans un an. C'était que le début, en fait. C'est un petit peu le symbole de ma vie aujourd'hui parce que j'ai commencé beaucoup de choses et j'ai jamais vraiment fini, surtout dans la musique, en fait. Et j'ai très honte aujourd'hui d'avoir fait ça. C'est-à-dire que de faire un morceau à moitié, c'est passer un petit peu à côté de sa vie, quelque part. Et ça aussi, c'est quelque chose que me dit ma psychothérapeute. Faites gaffe, un jour, vous allez vous réveiller. Donc, vous réveiller à côté de vos pompes, quoi. Et donc, j'ai adopté la stratégie des petits pas. Voilà, vous m'avez vu là, dans mon intimité, dans ma vérité la plus désespérante pour moi. Et en même temps, puisque le travail n'est pas fait, bah, il suffit de s'y mettre, finalement. Voilà. Et ma psy, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous fera vous lever la nuit? C'est-à-dire qu'elle me pose la question de mes motivations profondes et moi j'aime beaucoup dormir, donc c'est difficile quand même, j'ai besoin de repos. Et d'un autre côté, c'est vrai que trouver du sens à sa vie, c'est important. Et à 35 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 18 ans, quoi. C'est-à-dire que presque tout est à nouveau possible, quoi. Voilà. Là on y va.
Le TGV numéro 6194 en provenance de Miramas et à destination de Paris-Gare de Lyon, départ 8h23, va entrer en gare voie 2 bis. Il desservira Avignon, Orange, Montélimar, Valence, Mâcon-Locher, Paris-Gare de Lyon. Pour connaître la position des voitures, veuillez consulter le tableau de composition des trains. Éloignez-vous du bord du quai.
On a retrouvé retrouvé Sébastien au petit matin à la gare d'Arles. Et là, on vient de monter dans le TGV. On est donc parti direction Paris pour retrouver tous les gens qu'il a croisés depuis cette année et qu'il a croisés au Bataclan. And take me home, 'cause I'm all alone in this crowd.
J'ai repris l'écriture après le Bataclan, quoi. Et donc j'ai toujours un carnet sur moi. C'est un petit peu des formations professionnelles. Et là, je prends des notes sur mes états d'esprit, sur ce que je vois passer dans les médias, et puis surtout mes souvenirs, quoi. Là, j'essaie d'exorciser un petit peu par l'écrit. Donc là, j'ai pris les trois carnets que j'ai remplis depuis novembre. Donc j'ai jamais autant écrit de ma vie finalement. Je disais que j'étais pas productif, mais en fait si. Je fais ma thérapie, mon autothérapie par l'écriture quand même. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Là, on est 15 jours après. Je me lance dans l'écriture d'un livre. Je voulais raconter mon Bataclan. Je n'écris qu'une seule page. J'étais en nage, lessivé par un pogo à l'ancienne, vécu intensément dans la fosse du Bataclan, lorsque les pétards ont détonné. Les lumières de la salle mythique, chauffées à blanc par les flamboyants Eagles of Death Metal, se sont rallumées, comme pour signifier la fin des réjouissances. Au fond de la salle, trois hommes armés font feu dans le public. En un battement de cils, la scène s'est vidée de ses musiciens. La conscience me saisit que la mort vient d'entrer en scène, la vraie. C'est le rock'n'roll qu'il tente d'assassiner. Aujourd'hui, la commémoration nationale bat son plein. Le choix des artistes est navrant. Aux Invalides, les familles des victimes et les blessés doivent se recueillir au son de Nolwenn ou de Nathalie Dessay. Le rock est assassiné une deuxième fois. Celui-là, je l'ai écrit un mois après le Bataclan, juste avant de revenir à Paris pour entamer les démarches d'indemnisation. Putain d'apathie, le ressort est cassé. Je n'arrive plus à composer. La vérité, ma vie, c'est de la merde. Ma copine, faux plan. Mon boulot, point mort. Ma passion, éteinte. Mes esclavages, au top.
Voilà, station de métro Richard Lenoir, on va sortir pour remonter le boulevard Voltaire jusqu'au Bataclan. Jeff nous attend, c'est un ami d'enfance de Sébastien. Lui est installé à Paris et il y a un an, c'est ensemble qu'ils sont allés au Bataclan.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Seb.
Ça va, okay.
Ça va?
Ouais.
La
forme?
Ouais, ça va, ça fait plaisir.
Bonjour Paul.
Ben moi je me rends compte assez vite de ce qui se passe, relativement vite, parce qu'en fait, très rapidement les gens se couchent. Et là je regarde en arrière et je vois très distinctement donc un des terroristes, je suppose avec le recul qu'il s'agissait de Ismail Mostefaï, je suppose, parce que le portrait, j'étais un peu loin mais le portrait lui ressemblait. Et ce type là donc tire sur la foule méthodiquement. C'est-à-dire il charge et puis il va de gauche à droite avec son pistolet mitrailleur et il tire sur tout le monde.
Et puis ensuite c'est sauf qu'il peut. Là après moi je suis parti vers la Seine. Et Jeff aussi du coup. Mais moi je me suis pas arrêté, j'avais besoin de bouger, de trouver une voie d'issue. Donc j'ai entendu qu'il y avait une porte de secours vers la gauche. Donc je décide de passer sur la Seine, de derrière le rideau pour me mettre à couvert visuellement. Et essayer de trouver cette voie de secours que en fait j'ai jamais trouvé. Donc au lieu de prendre la porte de secours, je suis monté à l'étage moi. Moi je continue ma fuite, donc j'essaie de courir vers la sortie. Et au final, je me retrouve devant une fenêtre qui est à 8 mètres du sol. Et donc à ce moment-là, je ne pouvais ni retourner dans la salle où le drame se jouait, ni sortir du Bataclan. Donc du coup, j'étais vraiment prise au piège, à découvert, puisque j'étais dans les loges. Mais à tout moment, la porte pouvait s'ouvrir. Et donc, je décide de me réfugier sur une fenêtre à l'extérieur du Bataclan, mais pas vraiment dehors. Voilà.
Comment est-ce que vous tombez sur les terroristes qui vous prennent en otage? Vous êtes à la fenêtre et ils viennent vous chercher?
Alors, je suis accroché aux persiennes. Et ils viennent, ils sont en train d'organiser leur prise d'otage. Et donc ils disent à chaque personne qui croise à ce moment-là, on vous tuera pas si vous faites ce qu'on vous dit. Voilà. Donc du coup, moi, ils m'ont demandé de rentrer dans le couloir des loges et ensuite à commencer la prise d'otage à proprement parler, qui a duré d'une heure et demie à deux heures, je sais plus. Moi, ce dont je me souviens, c'est que avant l'intervention, il y a eu une balle qui a été tirée au travers de la porte. Sachant qu'il y avait deux otages derrière la porte et que nous, on était dans un couloir qui n'était pas plus large qu'un mètre, 1,20 m, quoi. On était une quinzaine de personnes dans ce couloir-là. La balle n'a touché personne. Et ensuite, donc, il y a eu l'assaut avec une porte qui a été défoncée, avec le bouclier Ramsès des forces de l'ordre qui s'est effondré. Donc, du coup, ils étaient à découvert. Nous, on était, les otages, on était entre Ismaël Mostefaï qui tirait sur les forces de l'ordre qui rentraient et les forces de l'ordre qui tiraient sur Ismaël Mostefaï. Nous, on était au milieu. Et c'est pour ça que c'est miraculeux. Parce que il n'y en a pas un qui s'est fait tirer dessus. Il n'y en a pas un qui a été touché par les ceintures explosives. Enfin, ça a été une intervention que les policiers de la BRI eux-mêmes qualifient de miraculeuse.
On arrive donc devant le Bataclan. Il y a encore les barrières, des fleurs. Les gens qui passent, qui prennent des photos également.
Moi, je le vois, c'est très difficile pour moi, dans le sens où, pour moi, c'est presque un lieu... En fait, c'est comme Tchernobyl pour moi, si vous voulez, vous voyez. Je sais pas comment le dire mieux, c'est Tchernobyl. C'est-à-dire que ce que j'ai vu en sortant de là, parce que quand on est sorti, nous, les forces de l'ordre nous ont dit de ne pas regarder en bas, mais vous savez comment c'est, vous regardez en bas. C'était... C'était une mare de sang, quoi, et tous ces gens qui ont vu leur vie voler, tous ces gens qui étaient par terre, là, non, c'était plus une salle de concert, c'était un lieu de carnage, quoi. Un lieu de carnage, il n'y a pas d'autre mot. Après, c'est mon Bataclan à moi, j'ai envie de dire, ou celui peut-être de Sébastien, je ne sais pas comment il le ressemble exactement, mais ça, quelque part, que ce soit une salle de concert pour les autres, tant mieux, mais pour moi, ça ne sera jamais plus une salle de concert, quoi.
Ce qu'on va faire, Jeff, c'est qu'on va vous laisser partir là où vous êtes retrouvé, finalement, dans un petit bar qui est juste plus loin. Avec Sébastien, on va rentrer dans le passage Saint-Pierre-Amelot. C'est là où il était accroché, pendu dans le vide à cette fenêtre et qu'il a aidé cette femme.
C'est quelle fenêtre, C'est celle de gauche, là, enfin entre les deux. David était à droite et moi j'étais à gauche. Et la femme enceinte, elle était donc sur la fenêtre de gauche.
Elle est enceinte, votre nouvelle compagne me disait c'est vraiment le symbole de la vie qui continue puisque le bébé est né. Vous les revoyez, vous avez revu le bébé, comment ils vont?
Ils vont bien, ouais, je les ai revus parce que ça a créé une communauté d'affection. Sa gamine va super bien, j'ai joué un morceau de guitare et pendant qu'elle pleurait, elle s'est arrêtée de suite de pleurer. Ce qui a du coup fait pleurer la maman, c'est juste la vie qui reprend ses droits. Ouais. Ah ouais.
Et ce qui rend cette histoire mondialement connue, c'est qu'il y a une vidéo qui est tournée à ce moment-là, tournée de l'immeuble qui est juste derrière, à l'étage, par le journaliste du Monde, Daniel Pseny, qui sera ensuite blessé lui-même en venant aider les gens dans la rue. On va aller voir Daniel Pseny, et puis juste derrière, on ira rejoindre les copains au baromètre. Oui, Daniel Pseny?
Oui.
Paul Ferrier de France Inter?
Oui. Donc je vous
ouvre. Oui, c'est bon, merci. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, on va rentrer. Vous arrivez avec vos sacs d'armes.
D'armes?
Ah, directement, oui.
Ouais. On a rencontré. Quelques gens qui étaient au Bataclan.
Ah ouais, d'accord.
Bah ouais, c'est vrai que j'avais la curiosité. Ouais, de curiosité et puis de communauté finalement, de tous ceux
qui ont vu de près,
ouais,
de loin, ce qui s'est passé en face. C'est bizarre parce que moi j'ai fait un geste qui serait resté dans l'ombre si vous n'aviez pas filmé à ce moment-là. C'est quelque part grâce à la vidéo que j'ai pu retrouver la personne que j'ai sauvée, quoi. Et c'est vrai que c'est la première question que je me suis posée en sortant du Bataclan, c'est est-ce qu'elle va bien, quoi? Est-ce qu'elle s'en est sortie, elle aussi? En fait, c'est grâce à la vidéo, donc je savais même pas qu'elle tournait sur Internet. Je l'ai appris le lendemain dans un mariage où je racontais ma soirée et je disais que j'aimerais bien avoir des nouvelles encore de ce film. Et quelqu'un me dit, mais la scène que tu racontes, on l'a déjà vue. On l'a vue passer à la télé et c'est toi qui as fait ça et tout. Et donc, j'étais pas au courant, et il me l'a sorti sur son portable. Et puis après, Twitter a fait son travail, et donc, de fil en aiguille, on a pu retrouver la personne que j'ai sauvée, quoi. Donc,
Comme la vidéo était vue dans le monde entier, il y a des gens du monde entier qui viennent dans ce passage qui était inconnu avant. Et donc, moi, là, c'est ma responsabilité directe et indirecte, mais en même temps, c'est parce qu'ils ont vu la vidéo que j'ai faite qu'ils viennent voir où était suspendue cette femme enceinte avec Sébastien qui la secourt. Simplement, ils viennent montrer aux enfants. Enfin, il y a quelque chose de très compliqué. Et
avec des enfants, avec voilà. Une vidéo, en regardant la vidéo sous la fenêtre pour regarder.
Voilà. Et donc là, il y a un côté tourisme attentat. Il y a même des Japonais ou des Asiatiques au moins qui sont venus avec un tour opérateur avec en bas. Et donc il y a ce merchandising de l'attentat. Ils font le tour des terrasses. Ils viennent ici. Donc ça pose un vrai problème mémoriel. Et effectivement, j'espère que bientôt, que ça sera réglé, qu'il y aura un mémorial qui sera installé devant le Bataclan, enfin, où les gens pourront, les familles, les amis, enfin, bon, tous ceux qui veulent d'ailleurs, mais qu'il n'y ait pas ce voyeurisme qui se fasse au détriment des victimes et de tous ceux qui ont été tués.
C'est quelle fenêtre que vous...
C'est celle-là. Alors... Tout simplement. Moi, j'ai filmé d'ici.
Vous la voyez souvent, cette vidéo qui a fait le tour du monde? Vous la revoyez? Vous la re-regardez?
Non, moi, je la regarde pas. Elle a été critiquée, la vidéo, et pas critiquée. Enfin, il y a des gens qui me l'ont reproché, des gens qui m'ont dit que j'ai fait mon travail de journaliste. Enfin, bon, tout ça, ça fait un débat. Je trouve ça tout à fait naturel. Je n'ai pas de souci avec ça. Simplement, je ne la regarde pas parce que... Voilà, je pense que maintenant, elle appartient à tout le monde. Elle appartient aux blessés, elle appartient aux sauveteurs. Bon, c'est un document. Après, il y a des gens qui, dans des situations très, très graves, comme celles qui se sont passées, ne veulent pas se voir. Est-ce que je comprends totalement? En même temps, c'est un document pour le monde entier, enfin pour tout le monde, de savoir qu'un attentat terroriste, ça donne ça. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, on dit qu'elles n'existent pas. Ce qui n'a pas empêché qu'il y a des gens qui ont fait des tweets ou sur Facebook de d'interpréter la vidéo en disant que c'était un montage. Tout le côté complotiste était aussi, après, hein, quand j'ai su ce qui s'était passé, c'était de dire que ce n'est pas un complot, voilà la réalité.
Moi, j'ai vu que la version courte, finalement.
Là, elle fait 5 minutes 48.
Arthur.
Mais je pense que c'est un... Je pense que c'est un sac. Et là, voilà, elle descend.
Oh, on voit la jeune femme enceinte qui s'approche de la fenêtre.
Ouais. Voilà, là, vous êtes tous les deux.
Ah, mais on arrive en même temps, je m'en souvenais plus de ça. D'accord.
Donc ça, c'est la première vague qui sort. Là, la jeune femme est donc appuyée. Là, je pense que c'est vous, ou c'est le...
C'est là,
David.
Là, David est à droite.
Ouais, monsieur, je suis enceinte, elle vous dit.
Non, elle essaie d'arrêter les passants dans la rue, en fait. Ouais. Ah, c'était simple, il suffisait de mettre des poubelles pour qu'elle tombe dessus. Enfin, bref.
Ah, mais il y avait des poteaux aussi.
Ouais, oui.
Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe?
Il nous tire dessus, mais voilà, on sait tout ce qu'on sait. Voilà, deuxième vague. Et elle a beaucoup de force. Parce que,
c'est long.
Non, c'est long. Ouais, parce qu'elle est appuyée. Heureusement qu'elle
vous, heureusement aussi, Sébastien, parce que vous êtes aussi les plus en vide, du coup.
Oui, bah c'est vrai qu'on s'appuie un petit peu pour tenir, quoi.
Là, elle s'appuie sur la grille, hein. Heureusement, d'ailleurs.
Et là, elle me dit, je vais lâcher.
Ouais.
Donc, bon. ce moment-là, j'ai pas envie de rentrer, mais quand même. Quand même, il y a quelqu'un qui
a. Il y a une réflexion quand même entre le moment où je vous agissais.
Oui, parce que je me sentais presque en sécurité à cet endroit-là, paradoxalement.
Là, c'est vous.
Voilà.
Voilà, et vous la retirez. Hein.
Et là, elle a une force phénoménale. Parce que du premier coup, elle s'accroche à mes bras.
Ouais. Ça, c'est la force de...
ouais.
du désespoir.
Voilà, on va s'installer au baromètre. En fait, c'est le bar, le restaurant où, juste après Mathieu au Bataclan, ils se sont tous retrouvés. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il me parlait d'un retour à la vie avec un baba au rhum. C'est comme ça qu'ils sont revenus. Donc, David, Sébastien, Jeff, vous avez tous votre parcours pour essayer de remonter la pente, si on peut utiliser cette expression-là. Ce qui vous différencie, c'est aussi le rapport que vous avez avec ce qui s'est passé à l'intérieur du Bataclan. J'ai l'impression, comme ça, en ayant discuté quelques minutes avec vous, que Jeff, tu t'en occupes quasiment plus du tout. Tu ne participes pas aux réunions avec les associations de victimes. Sébastien, tu t'impliques pas mal dans ces associations-là. Et toi, David, tu as par contre un gros rapport avec la police, l'enquête, des choses qui t'intéressent. Il y a vraiment une approche différente de l'après-Bataclan, quoi.
Moi, en fait, j'ai pas spécialement de problème avec les associations ni les rassemblements de victimes. Simplement, je trouve qu'on a tous vécu quelque chose à différents niveaux ou à différentes sphères, en fait, quelque chose d'effroyable, tous, sans exception. Et se confronter au traumatisme de quelqu'un d'autre, c'est terrible, en fait. Et derrière, ouais, c'est clair que j'ai eu cette envie de rencontrer les hommes de la BRI, quoi, qui sont intervenus, qui nous ont délivré, nous, otages, la dizaine d'otages, en fait, réels, en fait, qui sommes restés, on est restés deux heures et demie avec les terroristes, quoi. Et j'ai eu envie de rencontrer les hommes de la BRI, quoi. Et pas, entre guillemets, pas ceux du RAID, parce que le RAID était géographiquement un autre endroit dans le Bataclan en ce moment-là, et ça faisait pas partie de la colonne d'intervention, en fait. Et aujourd'hui, ouais, c'est clair que je quand je peux aller les voir, je les vois, je prends des nouvelles, je m'intéresse à ce qui se passe aussi dans la brigade. C'est pas un rapport personnel, mais voilà, et comme j'aimerais qu'ils aillent bien, et j'aimerais qu'ils soient décorés, j'imagine que Sébastien c'est pareil. Voilà, on aimerait que, là aujourd'hui, je les ai vus il y a quelques jours, ils m'ont dit que le bouclier qui avait servi pour l'intervention du bouclier Ramsès n'était toujours pas remplacé, quoi. Et moi, ça me semble terrible de me dire qu'aujourd'hui, s'il y a une prise d'otage dans les mêmes configurations que celle du Bataclan, le bouclier Ramsès soit HS et qu'il soit obligé, même si j'imagine que c'est pas aussi facile, de prendre un bouclier soit cassé, soit prendre autre chose. Il y a plein de choses comme ça qui me dérangent, en fait. Ensuite, c'est clair que, en ce qui concerne l'affaire en elle-même, ouais, je me suis beaucoup plus intéressé. J'ai besoin de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que ces trois hommes au Bataclan ont décidé de faire ça, etc. Et peut-être un besoin plus logistique, en fait, de compréhension.
Tous les deux, j'allais dire, vous êtes rencontrés, accrochés à une fenêtre. Et Sébastien, une phrase très forte, il me disait... Il m'a chuchoté, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais.
En fait, moi, je me mets à la fenêtre, quoi, et je me dis, bon, on verra ce qui va se passer, quoi. J'accepte toute fin. Je me dis, est-ce que, bon, si je sors de là, c'est bien. Si je me écrase en bas, c'est bien. Si on me tire dessus, tant pis. Enfin, voilà. J'ai une fatalité terrible qui a été très... qui est dégoûtante, en fait, presque, aujourd'hui, d'accepter fatalement ce qui va m'arriver. Et j'ai un mec qui se met à côté de moi. Et j'attrape Sébastien par le côté comme ça et je lui dis « Comment tu t'appelles ?» C'est ça que je te demande. « Comment tu t'appelles ?» Et tu me dis « Seb ». Il me dit « Seb ». Je lui dis « T'inquiète Seb, ça va bien se passer, on va se revoir. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Et dès lors, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'irrationnel, du domaine qui c'était plus physique en fait, ce qui se passait entre nous. Genre on était deux hommes pendus par la fenêtre, on allait peut-être mourir, on avait vu des choses effroyables. Et ça a créé un lien qui ne s'arrêtera jamais, en fait. Et aujourd'hui, je le vois comme... C'est pas un pote. Un pote, c'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps et que voilà, on échange des boutades. Aujourd'hui, c'est mon frère. Et je le dis parce que je ressens le même amour que j'ai pour lui que pour mes deux autres frères et ma soeur. C'est comme ça.
David, pour moi, c'est presque un ange, quoi, en fait. Mais c'est un ami d'abord, mais un ange aussi.
Moi, j'ai une approche... Personnellement, j'ai estimé, alors sans aucun jugement pour les autres, que construire une relation à partir de ce fait aussi effroyable n'était pas forcément une bonne chose pour moi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on construit une relation d'amitié... Enfin, encore une fois, j'entends bien les discours des autres. Hein. Est-ce qu'on construit une relation d'amitié à partir d'une prise d'otage terroriste? C'est une question. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis arrivé à des conclusions différentes. J'ai plutôt cherché à reconstruire mon cocon, à renforcer mon cocon, et à me détacher un petit peu de tout ça. Alors, de détacher, est-ce qu'on peut vraiment se détacher? J'ai quand même fait les démarches comme toutes les autres. J'ai aujourd'hui engagé des actions. Je m'intéresse quand même à ce qui se passe. Mais je ne cherche pas effectivement particulièrement à m'impliquer dans les associations parce que j'en ai pas le besoin, quoi. En fait, j'en ai pas le besoin. Et je crois que... Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, j'ai peur qu'au contraire, ça ait tendance à me raccrocher toujours à ça, à me réintégrer toujours à ça, à devenir une sorte de victime éternelle de cet événement. Et c'est plutôt ce que j'ai cherché à fuir, en fait, à titre personnel. Voilà.
Et vous parliez de mise en place d'actions. Je pense que vous parlez de tout ce qui est indemnisation. Et c'est peu de l'extérieur penser que c'est un parcours du combattant.
En fait, c'est plus qu'un parcours du combattant. C'est prouver qu'on a été impacté. Alors que ça ne devrait pas être approuvé. Ce qu'on a vu, c'est effroyable. Et ce qu'on a vécu, c'est on revient de la mort, quoi. Il y a toute une procédure derrière qui est un petit peu bizarre, dans le sens où on a une récompense d'avoir été traumatisé. Et ça, effectivement, c'est difficile à poursuivre, parce qu'il faut faire des démarches pour prouver qu'on va mal. Et du coup, ça risque de nous remettre dans un état de victime permanent, ouais.
Oui, bonjour. On a rendez-vous avec Maître Covio.
Pour être indemnisé, les victimes doivent ouvrir un dossier auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Depuis un an, ce Fonds de garantie doit traiter près de 5000 dossiers, une procédure compliquée que savent gérer des avocats spécialisés en réparation du préjudice corporel. Sébastien, lui, pour son indemnisation, s'est rapproché de Maître Aurélie Covio, une avocate parisienne.
Le Fonds de garantie... Et particulièrement diligent, effectivement, dans la prise de contact avec les victimes, ça c'est vrai. Que ça fonctionne bien, je ne sais pas si c'est le cas sur tous les attentats, mais en tout cas sur les attentats du 13 novembre, et pour la plus grande partie des victimes, dès lors que la liste unique des victimes, donc la LUV qui a été établie par le parquet, leur est arrivée, c'est vrai qu'ils ont été particulièrement diligents sur ce lieu-là, en tout cas. C'est pas toujours vrai pour toutes les victimes, c'est pas vrai, notamment quand on est dans des lieux ouverts. Donc le problème s'est posé pour le Stade de France ou pour Nice, où là c'est complètement différent. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les victimes du Bataclan, et plus précisément, j'ai envie de dire, les otages, où là, ils ont été vraiment les derniers à sortir, c'est vrai que le nécessaire a été fait très rapidement.
On peut encore améliorer les choses ?
Vis-à-vis de la procédure du Fonds de garantie, ouais. Oui, je pense. Maintenant, il y a plusieurs choses. Un problème de moyens auxquels ils sont confrontés. On ne peut pas leur faire tous les reproches. Ça, c'est la première chose. Un problème de méthode, à mon avis. C'est-à-dire que le Fonds de garantie, actuellement, est une double casquette, que d'ailleurs, qui est parfaitement entretenue par le gouvernement, qui les présente comme une espèce d'entité bienveillante, alors qu'il s'agit quand même d'un contradicteur. C'est une très...
C'est-à-dire que l'on est censé indemniser, et eux, leur but, c'est d'indemniser le moins possible. C'est ça que vous êtes en...
Alors, oui, évidemment. Évidemment, c'est la réalité économique. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a deux choses. Hein. Le Fonds de garantie des victimes d'infraction, c'est une très très belle construction. Voilà, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que le Fonds de garantie est un payeur. Il n'est rien d'autre qu'un payeur. Je ne dis pas qu'il est méchant, que c'est un affreux jojo, et je ne vais pas le dépeindre avec des cornes, etc. Exactement la même place qu'un assureur. Hein. Il faut qu'on parle d'argent. C'est d'ailleurs plus facile pour les avocats de parler d'argent que pour les victimes, parce qu'il y a une espèce de condamnation dans nos traditions, de notre tradition judéo-chrétienne d'indemniser des victimes qui passent leur temps à s'excuser de demander de l'argent, c'est insupportable, sachant qu'il n'y a pas d'autre forme de réparation.
On est un an après. Est-ce que les dossiers du 13 novembre sont quasiment tous finis ou ça va prendre encore énormément de temps?
Comment ça peine? Là, on en est aux premières expertises. Donc, c'est d'ailleurs assez compliqué pour les victimes. Hein, parce que les victimes, quand elles commencent à aller mieux, elles nous disent... Et elle veut que ça se termine. Et c'est un signe de bonne santé. Et nous, c'est le moment où on commence à travailler. Donc, on a cet énorme décalage qui peut d'ailleurs arriver à certaines frictions et à certains énervements où les gens se disent « Mais moi, ça fait déjà 3 ans que ça s'est passé, je veux que ça se termine. » Nous, c'est à partir du moment où on a l'expertise définitive où on peut chiffrer les préjudices. Globalement, c'est ça.
Bon, c'était le dernier rendez-vous, Sébastien.
Ouais.
L'heure du départ. Donc, on va
repartir
au train, prendre... À la gare de Lyon, on y va ?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Sébastien, notre première rencontre, vous m'aviez dit, je raconte une dernière fois pour que cette date anniversaire me permette de tourner la page. C'est fait, vous nous avez raconté. Et puis juste avant de reprendre le train, là, puisqu'on est à la gare de Lyon, de rentrer à Arles, chez vous, plutôt qu'une nouvelle fois vous exprimer, nous dire ce que vous avez ressenti, vous avez préféré choisir de laisser la place à la musique, à un morceau de piano qui vous a accompagné durant cette année de reconstruction. Il n'y a pas de paroles, juste des notes composées par un pianiste qui a appelé son morceau 13 novembre, Je vous aime les Français. Ça a été écrit juste après les attentats. Et des notes qui veulent dire l'humanité triomphera. Et le compositeur, qui est anglais, Jamie Mason, il a accepté de venir jouer à la gare de Lyon juste avant le départ de votre train. Je vous dis encore merci Sébastien, et puis bon retour et bon courage pour la suite.
Merci à vous et merci à Jamie d'être là aussi.
Il faut préciser que depuis le tournage de ce reportage, et sans lien avec lui, il y a quelques semaines, la brigade de recherche et d'intervention a enfin été dotée d'un nouveau bouclier. Un deuxième est attendu prochainement. Retour au Bataclan, c'était un reportage de Paul Ferrier, prise de son Jean-Marie Porcher, mixage Éric Boisset, réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Bensmaili, avec le précieux concours de la documentation sonore de Radio France. À la semaine prochaine.